dignity. Always dignity.
I see you shiver with anticipation.
C'est excessivement énervant.
Patient.
Jour, nuit.
Babbling, bumbling band of the boons.
Jour, nuit.
C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle.
C'est marrant ce que tu dis puisque c'est pas tellement marrant.
Barracuda.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans un nouvel épisode du Retour du Jeudi.
Et oui, on continue, encore et toujours.
Et oui. Donc aujourd'hui, ça sera Justine qui n'aura pas vu le film que je lui ai proposé. Et ça sera Les Barbouzes.
Est-ce qu'on peut dire que quand tu m'as proposé le film, tu t'es trompé de nom de film ?
Oui, parce qu'au début, j'ai dit Les Tontons Flingueurs, alors que je pensais Les Barbouzes.
Et je n'ai vu ni l'un ni l'autre, donc ça marchait, Les Tontons Flingueurs. Ouais.
Mais j'ai corrigé, donc... du coup, Les Barbouzes, donc, c'est un film franco-italien de 1964, donc
ah
c'est
ouais.
En noir et blanc.
Donc mes parents avaient 2 ans, quoi.
C'est ça, et c'était réalisé par George Gottner, je crois que ça se prononce Gottner. Avec un scénario de Agbert Simenin et Michel Audiard.
Ah.
Donc, il y aura des dialogues très fleuris. C'est
d'accord.
Tout ce que je peux dire.
Très bien.
Ouais. Donc, à ton avis, de quoi traite ce film ?
Eh ben, j'en ai fichtrement aucune idée, puisque je ne connaissais pas l'existence de ce film avant. Voilà, donc je ne sais pas du tout de quoi ça va parler.
Et là, vas-y, si tu essaies d'imaginer comme ça...
Ben, j'en sais rien, moi... Le seul film franco-italien que j'ai vu, je sais même pas si c'est franco, si la partie franco est correcte, c'est genre La Vita è Bella, et c'est un film qui parle de la guerre et de Noël, et c'est trop triste.
J'ai même pas vu ça.
Quand même.
Ouais, mais non, vas-y, essaie d'imaginer un truc.
Mais j'ai aucune idée.
Zéro. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une barbouze ?
Bah, c'est toi, t'as une petite barbouze, là.
Donc non, c'est pas ça.
Non, je sais pas du tout.
Et ben, on gardera le mystère.
Ah non,
Ah bah si. Du coup, vu que t'as aucune idée, Attends, j'avais noté la définition de barbouze, et en fait, du coup, une barbouze, c'est un agent du contre-espionnage.
D'accord, ok. J'ai aucune attente, puisque je ne connaissais pas ce film. Mais il est sur mon ordinateur, ça fait quelques jours que je l'ai sur mon ordinateur et que je ne l'ai pas regardé.
Donc très bien, tu es déjà préparée.
Je suis prête, je peux le regarder là, dans la minute qui suit l'enregistrement, quoi.
Et ben, on va faire ça tout de suite.
Très bien.
C'est parti.
C'est parti, on regarde.
Bon, bah,
voilà.
Nous on se retrouve bientôt et... Enfin, non, je veux dire... Non, les auditeurs,
tout de suite.
Ça sera dans 2 minutes, je pense, à peu près. Et nous, ça sera dans quelques jours, le temps de regarder le film.
Ouais.
À tout
de suite. Enfin, rebonjour.
Rebonjour, oui, on était censé avoir fait un pré-enregistrement.
Oui,
tout à fait.
On a déjà parlé l'autre jour.
C'est vrai. Rebonjour, rebonsoir pour le retour du jeudi. Oui. Et cette fois, c'est sur
Les barbouzes.
Les barbouzes.
Les barbouzes que je rappelle, je n'avais jamais vues.
C'est ça.
Pour ceux qui n'ont pas écouté, il y a 3 minutes. Mais ça m'étonnerait.
Ah oui, ah oui, eux c'était 3 minutes, oui. Nous c'est...
Pardon, mais nous ça fait genre 2 semaines, donc ouais, c'est un peu compliqué de retourner dedans. Ouais.
Donc qu'as-tu pensé de ce film ?
C'était un peu long. Les dialogues étaient un peu... tarabiscotés.
Ah bah c'est du haut hier, hein, écoute. Tu savais où tu mettais les pieds, hein.
Exactement. Et au début, j'étais là genre, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait, ça va, c'était rigolo.
Oui. Du coup, en gros, c'est l'ancêtre de OSS 117.
Exactement. C'est ce que j'ai pensé quand j'ai regardé le film. Ouais. Le
on est
Est-ce
sur...
que Michel Hazanavicius s'est inspiré de ce film pour faire OSS 117 ouais.
On est sur une parodie des films d'espionnage de l'époque, en fait.
Oui.
Voilà.
Voilà.
Bah, je propose de commencer
et
dès
bien,
à présent.
Oui, de parler de ce petit film de 1964 qui est en noir et blanc. Je sais pas si on l'a dit dans le...
Je ne sais plus, mais oui, c'est un film en noir et blanc. Et donc, toute l'image est très lissée. Très...
Oui. Ouais.
Et ben, on commence en noir et blanc et de nuit.
Et c'est la nuit, donc c'est encore plus noir que blanc.
C'est ça. Dans un train qui fait beaucoup de bruit.
Bah, c'est un train de 1964.
Ouais, mais la bande-son, quand même, ouais. Un peu...
Elle est un peu violente, la bande-son.
Ouais,
hein.
Ouais. Bah, ça dépend de certains bruits, mais oui, des fois, c'est pas super. Et ouais, on commence dans un train. On sent d'avance qu'il y a un truc qui va pas, vu qu'il y a une porte d'ouverte dans un train qui est en train de claquer.
Et il y a un mec baïonné.
Et oui, il y a un contrôleur baïonné, tout à fait.
Oui.
Et...
Parce que les gilets jaunes ont baïonné un contrôleur de la SNCF.
Ça commence ouais. Et donc on assiste à une espèce de meurtre à la chaîne vu que tout le monde se fait
oui j'étais là mais qu'est-ce que c'est que ce film ouais. Vraiment genre toutes les 30 secondes il y a quelqu'un qui meurt
voilà, soit poignardé soit balancé par la fameuse porte ouverte.
Je me suis demandé combien il y avait eu de morts dans ce film.
Ah, il n'y a pas de body count mais
et je me suis dit est-ce que c'est comme ça pendant tout le film?
Non ça va
mais en fait non
mais j'aime bien l'ingéniosité parce qu'il y a quand même un mec qui se fait asphyxier aux toilettes.
Oui.
Par un test, un truc de gaz, je sais pas trop quoi, et c'est mais qu'est-ce qui se passe? Et, et on a aussi d'ailleurs une voix off
oui
qui commence à raconter des trucs. J'ai même...
Ça parle de coup de pied au cul. Alors, la voix off dit coup de pied au cul, hein, moi je suis là. Ouais.
Et ben, j'ai même pas noté ce qu'elle racontait, mais j'ai noté voix off, mais pas ce qu'elle racontait. Et voilà. D'un coup, le train en fait s'arrête sur les rails. Et en fait, il y a des gars qui descendent sur les voies. Dont un gars qui a l'air assez important parce que déjà il est très ventripotent.
Oui.
Et ensuite tout le monde l'appelle.
Monseigneur.
Monseigneur ou.
Son Excellence.
Son Excellence, tout à fait. Et. Et il monte dans une bagnole et il s'en va.
Ah oui. Ouais.
Apparemment ça devait être un mec surveillé parce qu'il y a deux gars des services secrets, je pense, qui disent merde, on est perdu.
Ah non.
Et ouais. Et en fait, on apprend tout de suite que c'était un vendeur d'armes.
Oui.
Ouais.
C'est un vilain vendeur d'armes que j'ai surnommé Jean-Michel Chauve, puisqu'il est chauve.
Chauve, tout à fait. Et donc...
Parce que pour l'instant, on ne connaît pas son identité.
C'est ça. Mais, justement, on arrive au... Je sais pas, au truc des renseignements des services secrets, je sais pas quoi, qui annonce qu'un fameux Ben Archa est...
Ou Bernard Archa,
hein, c'est
dirais. Qui va sûrement arriver pendant l'émission.
Donc, Ben Archa... En fait, Ben Archa, donc c'est le fameux... gros qui vient en
Jean-Michel Chauve.
C'est enfui, on a perdu sa trace. Donc en fait, ça, on va dire c'est un sous-fifre qui dit ça à un chef des services secrets. Le chef des services secrets fait genre oh, « Mon Dieu, c'est terrible !» Et hop, il se lève, il va voir De Gaulle. Vraiment,
il va voir le président.
Le président.
Parce qu'on le voit pas, mais on l'entend.
Oui, on a du hors-champ, mais vraiment improbable.
Et mais à un moment, on se retrouve avec une photo de De Gaulle, genre la photo présidentielle de De Gaulle.
Oui, voilà, c'est ça. Donc on devine que c'est le général De Gaulle. Qu'on est dans la France, mais pas n'importe laquelle.
La France du général de Gaulle.
Et en fait, le chef des services secrets dit au président, comme prévu, il est parti. Donc en fait, tout ça n'est qu'un immense complot, apparemment.
Yeah.
Et hop, ça coupe. Et... j'ai envie de dire...
On commence à rencontrer...
Plein d'espions.
Quelques personnages qui seront les personnages clés de ce film.
Ouais. Et on va vous mettre directement la fameuse voix off qui présente tous ces personnages.
Les personnages.
La disparition de Ben Archa, magnat de l'armement, venait d'éclater comme une bombe. Les services secrets des puissances intéressées lancèrent ensemble à sa recherche leurs agents les plus perspicaces et les plus dynamiques, fascinantes synthèses du cerveau et du muscle. Parmi eux, nous citerons... Voici donc Francis Lagneau, dit Petit Marquis, dit Chérubin,
bon ben,
dit Talon Rouge.
On va plus à Plougastel.
Dit Falbala, dit Belle Manière. Il est également connu dans certains milieux sous le sobriquet de Requiem, dit Bazooka, dit Lapraline, dit Belle Châtaigne. C'est curieux comme les gens sont méchants. Citoyens de Genève, représentants des banques et dépositaires de la pensée neutraliste, voici Eusebio Caffarelli, dit le chanoine, entomologiste et esprit distingué. Son mysticisme, à la fois très hostile au rationalisme de Saint Thomas et à l'orthodoxie mécanique de la scolastique, le pousse parfois à des actions brutales que sa conscience réprouve. Mais le meilleur des hommes ne saurait être parfait. Compatriote de Goethe et de Wagner, voici Hans Müller, dit le bon docteur. Philologue, musicien et humaniste, chercheur assoiffé de vérité, auteur d'un ouvrage aujourd'hui introuvable, Les points sensibles ou la thérapeutique contre le mensonge. Apôtre de la coexistence, Boris Vassiliev, sujet très doué, surnommé dès son plus jeune âge Trinitrotoluen. Pianiste virtuose, pyrotechnicien confirmé, Boris est classé par ses supérieurs dans la catégorie des esthètes turbulents. Mais Benarcha demeurait introuvable. Un événement imprévu donna enfin l'avantage aux Français.
Bah voilà, comme on vient de l'entendre, le fameux événement imprévu qui donne l'avantage aux Français, c'est la mort de Benarcha à Paris.
Est-ce que t'as noté où est-ce que devait partir l'agneau en vacances ?
Non.
À Plougastel !
Mais j'ai même, je sais pas où c'est.
C'est en Bretagne ! Ouais,
bon, bah, pour l'instant, on est à Paris avec Benarcha mort, ok hein. Donc, il est mort, mais pas n'importe où. Tranquillement dans un lit. Enfin, plus ou moins. En fait, il est mort dans un bordel.
Oui.
Oh mon dieu.
Ah mon dieu. Bordel.
Il
est mort au Moulin Rouge.
Tout à fait. Non, même
pas,
pas
le
du
Moulin
tout.
Rouge.
Et en fait, ce que nous dit la voix off aussi, c'est qu'il est mort de la même manière. Selon le même procédé que Félix Faure. Félix Faure qui était un homme politique français, je sais plus s'il était président de je sais pas quoi, mais il est mort pendant qu'on était en train de lui faire une fellation.
Oui. Voilà. Apparemment. Ouais. Et la personne pratiquant la fellation a le doux surnom de...
Pompe funèbre.
Voilà.
Yes,
c'est magnifique.
Ouais. Donc, bon. Hop. N'en pas douter qu'il faisait une partie de dame, et ça, c'est fini. Et donc la tenancière dit même aux hommes qui accompagnaient Benarcha, enfin ses gardes du corps, qu'il a eu un accident de parcours. Et en fait, on se rend compte qu'elle fait aussi partie plus ou moins des renseignements, parce que ni une ni deux, elle prend son téléphone à cadran, hein, et elle appelle, je sais pas, les flics, enfin un mec directement habilité pour dire que
oui.
Benarcha est mort. Du coup, le fameux Francis...
Est-ce que c'est là qu'elle dit le petit chat ?
Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Le surnom de Benarcha, c'est le petit chat.
Parce que c'est chat S-H-A-H.
Ouais, je crois.
Et pas chat comme un chat qui miaule. Mais le petit chat, c'est lui.
Et donc Francis, l'agent français, évidemment, et a pour mission de ramener le corps du défunt chez lui, qui est, je crois, en Allemagne de l'Est.
Il me semble aussi.
Ça fait un truc comme ça. Dans une caisse des services des musées nationaux.
Oui.
Parce que en fait son chef lui dit, enfin il demande à son chef, est-ce que je suis couvert? Et il lui dit, si vous voulez être couvert, il fallait vous engager dans la gendarmerie.
Et voilà.
Donc.
Et comme il a pas envie d'être gendarme poulet ou CRS.
C'est ça.
Il a dit. Ouais.
Donc il part avec une camionnette et la caisse à l'arrière et c'est parti.
Et c'est parti pour la frontière.
C'est parti pour le show, je sais pas. Et donc sur le chemin, juste avant la frontière, il s'arrête dans un petit boui-boui, comme il y en a des tonnes.
Un petit resto chauffeur.
Donc son chef lui donne une vraie identité, celle de Ludovic Brérard, ou Bérard, je sais plus quoi, qui est censé être cousin de la veuve, un cousin éloigné de la veuve de Benarcha.
Oui.
Déjà, ça pue comme...
Déjà, ça pue comme...
Comme couverture, ouais. Vraiment. Et en fait, sa mission est de retrouver des brevets d'armes que Bernard Shaw a acquis.
D'armes nucléaires.
Nucléaires.
On parle pas de n'importe quoi non plus. Hein.
Et donc, convaincre la veuve de vendre les brevets à la France et pas à une puissance étrangère.
De donner les brevets à la France, puisque la France n'a pas de budget.
Ah bon, déjà, on le sait qu'ils n'ont pas de budget.
Je sais plus.
Pour l'instant, c'est vendre à la France, je crois.
Oui.
Et hop, alors,
que la France récupère les brevets.
Oui. Et donc, il fait un déjeuner assez copieux, et hop...
Oui, il commande tout ce qu'il y a sur la carte. Hein.
À peu près. Et hop, ça repart. Et maintenant, du coup, d'ailleurs, il change de moyen de locomotion. Ils mettent le corps dans une ambulance, pour faire genre...
Oui. Ouais.
Et on arrive enfin chez Bernard Shaw, qui n'est pas une petite bicoque.
Non, hein, c'est plutôt un château assez sympathique.
Ouais, tout à
voilà.
Fait.
Et on a... On arrive au château, et on voit la veuve de Bernard Shaw qui a l'air très triste, puisqu'elle est voilée avec un voile noir, qui est le voile de la veuve. Mais en fait, elle est en sous-vêtements.
Ouais.
Genre, elle a un voile. Donc, au début, on voit que sa tête, donc on est là, oh, c'est triste et tout. Genre, vraiment, c'est une veuve, voilà. Mais sauf qu'en fait, sous son voile, elle est en sous-vêtements. Donc, c'est que ça doit aller quand même.
Ça va.
Et donc, l'agneau rencontre sa cousine, hein, cousine entre guillemets, puisque. C'est pas vraiment sa cousine. Et on espère que c'est pas sa cousine, vu la suite des événements.
Oui.
Et ça joue du violon, et ça raconte des histoires sur Bernard Shaw et l'agneau, enfin, Ludovic. Ah oui.
Moi, j'ai noté, en fait, il dit... Enfin, Ludovic dit à la veuve que Bernard Shaw est mort en disant son nom.
Oui.
Ce qui est plutôt assez drôle.
Oui, sauf que...
Il était... Pas vraiment.
Ensuite, nous avons un abbé... italien, enfin Carafelli,
ouais.
Qui ramène sa poire pour présenter ses condoléances à la petite Zouze de Bernard Shaw.
Ouais.
Sauf qu'en fait, c'est pas du tout un abbé.
Ouais. Il fait partie de la liste des espions qui a été citée par la voix off.
Oui. Et donc lui aussi veut récupérer les brevets d'armes pour son pays.
Pour la Suisse,
je ne sais plus.
C'est la Suisse. C'est la Suisse.
Ensuite. Mais qui c'est qui se ramène aussi
Le docteur Müller.
Le docteur Müller. Et le...
Et Boris. Moi, j'ai marqué
Boris. Et Boris Vasilovitch.
Moi, j'ai marqué Boris. C'est pas...
Je ne sais plus. Et c'est fou, on dirait que vraiment, ils se sont refilés le mot. Genre, on se retrouve tous à tel endroit pour faire un bridge ou une belote. Bah, une belote, c'est... ils sont quatre, donc c'est bon, ça marche.
C'est ça. Tout le monde, en fait, a été au courant très vite de la mort de Bernard Shaw, et tout le monde s'est ramené en même temps.
Et j'ai noté aussi que notre ami russe avait un accent très, très stéréotypé.
Ah ouais, c'est...
Est-ce que c'est pas le point commun de tous nos épisodes pour l'instant? Tous nos films?
Ah oui, tous nos films. Oui, si, c'est vrai. Putain, oui.
Voilà. Quand même.
Oui, on n'est pas gâtés. Hein. Et
ensuite, en fait, y a un petit Rudolph qui fait son apparition. Je sais toujours pas qui c'est.
Bah, je m'en ai plus.
Mais si il est avec Bernard Shaw, mais je sais pas s'il faisait partie du
gouvernement français. Ah oui, non, mais c'est son homme. Non, non,
c'est son homme de main.
C'est son homme de main, c'est son homme à tout faire, en fait.
Voilà. Ouais. Donc Rudolph est là, et c'est l'homme à tout faire de Bernard Shaw, qui est mort. Mais il connaît l'agneau depuis très très longtemps. Enfin, l'agneau Francis. Enfin, le français, quoi. Francis le français. Et donc, ils se font un petit dîner entre amis soir. Et donc, ils font un petit dîner ensemble, et ils s'engueulent tous, hein, puisque c'est pas drôle, sinon. Et est-ce que t'as noté la robe de Mireille d'Arc? Oui, parce que sa zouze, c'est Mireille d'Arc.
Oui, oui, la veuve, c'est Mireille d'Arc.
Bien.
Bien.
Hein.
Oui, oui. Une robe de veuve épurée.
Oui, une robe noire, très sobre, n'est-ce pas? Avec un maxi décolleté dans le dos, genre vraiment la robe près du corps et tout, qui est super longue et avec un maxi décolleté dans le dos.
Ouais.
Et tout le monde va dans sa chambre.
C'est ça. Oui, alors tout le monde rejoint sa chambre. Bah déjà.
Tout le monde rejoint sa petite couche.
Sa petite couche. Je sais pas combien de pièces il y a dans le château, mais vraiment ça ne s'arrête pas.
Environ 20 000.
Et donc en fait, tout le monde va dans sa chambre, mais vu que tout le monde sait que les autres sont des espions, ils se disent quand même.
Il y a Anguille sous roche.
C'est ça. Donc au début, on check, histoire de voir si rien n'a bougé. Donc une lampe qui serait pas au bon endroit, s'il y a des micros.
Et en fait, oui, parce que l'agneau arrive avec des photos.
C'est ça. Oui, en fait, il a pris des photos avant pour comparer avant-après.
Ouais.
Donc au début, il se rend compte qu'il y a des micros dans les bougies. Ensuite, il y a un scorpion dans les draps.
Oui.
Après, en fait, il y a de l'acide dans le pommeau de douche.
Ah ouais, putain, ça c'est horrible.
C'est vraiment horrible.
Il y a vraiment des pièges partout, quoi. Ouais. Genre, tu peux plus rien faire.
Il y a même des couteaux accrochés au lustre.
Oui!
Juste au-dessus du lit, donc en fait, dès qu'il y a du poids sur le lit, ça se décorche, ça tombe.
Ouais.
Et pour finir, il y a même des explosifs dans la chasse d'eau.
Ouais.
Donc même, enfin, on peut pas pisser en paix, quoi. C'est pas.
Allez,
c'est
on peut rien faire dans ce petit château. Ouais.
Donc là, tout le monde check sa chambre, tout le monde découvre des pièges et des machins. Tout le monde, après, sort ses affaires de sa valise. Ils ont tous un arsenal.
Oui!
Avec eux.
Oui! Ils ont emmené vraiment genre tout ce qu'ils pouvaient.
Ouais,
je pense.
Enfin, bon, improbable. Et bon, à la fin, tout le monde arrive quand même à aller se coucher.
Oui.
Et on arrive au lendemain au petit-déj.
Et oui, c'est le petit-déjeuner. Donc on a un petit-déjeuner bien sympathique.
Oui.
Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Un nouveau personnage!
Est-ce okay. que ça serait pas l'américain?
Si. J'ai oublié de noter comment il s'appelait.
Moi, je l'appelais l'américain.
Moi aussi.
attends. Moi, j'ai marqué un américain arrive. c'est tout ce que j'ai noté.
Moi, je me dis, il y a quelqu'un qui arrive, c'est un américain.
Ah oui, non, alors.
C'est l'américain en plus.
D'ailleurs, alors, pas anecdote personnelle, mais presque. En fait, dès que je l'ai vu, je l'ai trouvé insupportable. Parce qu'en fait, il ressemble très pour très à un prof que j'ai eu à la fac. et qui était vraiment la pire personne du monde. Du coup, déjà, de base, bam, je l'aime pas.
Moi, j'ai pas noté grand chose à ce moment-là. Puisque j'ai juste noté le maquillage de Mireille d'Arc. Genre, t'as sûrement pas fait attention.
Non, mais c'est sobre, c'est ça.
Son trait de liner.
Ah oui, oui, oui.
Il est parfait.
Exceptionnel.
Vraiment, genre, exceptionnel. Genre, c'est une œuvre d'art, ce liner. Donc, l'américain est toujours là. Et il propose de payer, je sais plus si c'est déjà 2 millions.
Non, c'est 1 million. Ouais.
C'est 1 million. Il ouais. propose.
Non, 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 mieux. Non, non. Il propose deux fois plus.
Oui, il propose deux fois plus que la plus grosse offre, en gros.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'il a plein de thunes et qu'il veut vraiment récupérer les promesses.
Il veut payer cash.
Il veut payer cash en dollars.
Ouais.
Est-ce que c'est une monnaie forte, le dollar?
Bah, à l'époque, ouais, je pense.
Ouais, je sais pas. C'était un clin d'œil à la suite du film, parce que...
Ah oui.
Il y a Mireille d'Arc
ouais,
qui demande après.
et en plus, alors, en fait, Mireille d'Arc n'est pas trop conne, parce que, vu quand même, il y a eu... un peu de bruit la nuit, elle dit quand même qu'elle a pris le maçon pour le mur de la salle de bain.
Ah oui!
Ce qui est quand même assez... Du coup, en fait, elle se rend compte qu'il se passe un truc vraiment bizarre et elle doit être quand même habituée au truc un peu chelou avec son mari. Ah oui, d'ailleurs, t'as pas dit, mais l'américain, il se fait défoncer.
Ah oui! Ben, je viens de retomber dessus, oui, il se fait défoncer, il prend vraiment des grosses patates, je pense qu'il peut... nourrir un McDo en frites pendant une journée avec le nombre de patates qui se prend dans
ouais.
la gueule.
Et il se fait jeter dans les douves.
Et oui, parce que c'est un château avec des douves. Hein.
Et j'aime beaucoup Mireille d'Arc qui dit « Vous ne craignez pas d'avoir été un peu vif ?» Alors que le mec s'est fait défoncer et balancer du haut des remparts dans les douves.
Voilà. Ensuite, nous allons à l'enterrement
oui.
de Pénarchat,
ouais.
puisque c'est pour ça qu'on est là à la
oui,
base.
Oui, de base, en fait, c'est ce que j'ai compris, c'est que en fait, il va se faire enterrer chez lui, du coup.
Oui,
c'est,
voilà, c'est... en fait, ils ont dû ramener son corps c'est chez ça. Lui pour qu'il soit enterré chez lui,
ouais.
et pour que sur les papiers, ce soit noté qu'il est mort chez lui et pas qu'il est mort dans un bordel à Paris.
Ouais. Ah oui, donc c'est en grande pompe. Il y a,
oui.
y a des mecs qui jouent du tambour, des machins et tout. Tous les espions ont amené leur petite gerbe de fleurs aussi, leur petite
oui
couronne de fleurs. Et, alors, et c'est très drôle, en fait, c'est écrit dans chaque langue.
Oui.
Ça m'a fait marrer.
Et il y a une faute sur la version russe.
Ah bon ?
Oui.
Je vais pas le dire, mais...
Alors, en fait, il y a une faute sur la version russe, puisqu'il y a deux lettres dans l'alphabet cyrillique qui se ressemblent. Mmh. Ils ont mis la mauvaise.
Ah bon.
Voilà. C'est pas moi qui l'ai su, je l'ai vu sur la fiche Wikipédia.
Ah bah bravo.
Mais j'ai étudié le russe, donc je sais de quelle lettre il parle, etc. En gros, ils ont mis un tch à la place de mettre un ou. Voilà.
Ah,
et ça se ressemble dans l'alphabet cyrillique. Voilà.
Et
Mireille d'Arc est toujours aussi belle.
Mireille d'Arc toujours aussi belle. Tout le monde comment dit-on lui présente leurs hommages.
Ses condoléances.
Ses condoléances.
Leurs condoléances.
Et donc, il y a quand même l'Américain qui revient. et qui fait.
Ce putain d'Américain.
Ce putain d'Américain. Et il refait une proposition. Alors, je sais plus ce qu'il dit. 1 million. Enfin, je sais plus ce qu'il raconte. Je crois qu'il se refait défoncer d'ailleurs.
Oh, c'est possible. Parce qu'il se fait défoncer plusieurs fois, j'ai l'impression.
Ouais, il se fait démonter.
Et à chaque fois qu'il apparaît, en fait.
Au même moment, t'as un hélicoptère qui passe au-dessus de l'enterrement.
Oui. Et fait, c'est...
C'est le chef de Ludovic.
C'est le colonel.
C'est le colonel, enfin le chef du service secret français, qui est posé pépouze dans un petit dans champ. Là.
Petit hélico, là.
Un petit hélico. Et en fait, il annonce à Ludovic qu'il n'a pas de crédit pour acheter des brevets, en fait.
Du coup, et qu'est-ce qu'il lui dit?
Alors, il lui dit texto. On n'a pas l'argent, mais on a le charisme. On courtise, on séduit, on enlève, et si nécessaire, on épouse. Voilà, donc ça annonce la technique qui va être utilisée par la suite.
C'est vrai que le charme, ça vaut beaucoup en bitcoins.
Oui. Ah bah c'est comme ça qu'on en gagne, oui. Déjà. Je suis économiste, croyez-moi. Ouais. Donc ça annonce la couleur pour la suite, c'est-à-dire que...
Ils veulent tous pécho la zouze.
C'est ça. On va pécho de la zouze.
Ah là là.
Et hop. Et donc, Ludovic rentre au château et voit que les autres espions sont au courant.
Et oui. Et du coup, t'as le russe qui lui joue un petit morceau au piano et qui lui chante une chanson.
Oui, tout le monde, du coup, donc, ils sont tous au courant, du coup, ils décident d'avoir la même technique.
Oui. Ouais. Et du coup, t'as l'italien qui assomme l'agneau qui l'enferme dans une armoire, t'as l'allemand qui lui offre des roses en je sais pas quoi pour pas qu'elle fane jamais.
Ah oui, ça, j'ai rien compris, c'est putain.
Et donc, Francis Lagneau casse tout pour sortir de son armoire. En fait.
Oui.
Je sais pas combien a coûté ce film, mais j'espère qu'ils n'ont pas eu à refaire les casses, genre refaire les prises de quand ils cassent tout.
Parce oui, les meubles.
Le nombre de fois qu'ils cassent des meubles, et des murs, et des portes, et je ne sais pas.
Impressionnant.
C'est impressionnant.
Et en fait, alors juste pour un truc, c'est qu'en fait, quand il sort de son armoire, il retourne au piano,
oui.
Qui ne sonne plus très bien.
Ah oui, oui. Qu'est-ce qui se passe, enfin.
En fait, il y a un mec dans le piano qui est un peu dead.
Et c'est qui ce mec dans le piano?
C'est un des serviteurs. Ouais. Ouais. Qui avait apporté les roses d'ailleurs du docteur Müller.
Eh oui. Tu fais bien ton petit accent d'Asie, Théo. Ouais.
Et qu'est-ce que j'allais dire?
On voit aussi dans un tableau.
Oui, il y a des yeux qui bougent.
Quelqu'un a coupé les yeux du tableau et que quelqu'un observe la pièce par ses yeux du tableau.
Il y a plein de passages secrets dans le château, et en fait, il y a 15 espions asiatiques qui se baladent là, dans tous les sens.
Et ils communiquent en morse, je crois.
Ouais, oui, ils ont des bips.
Ils ont des petits bips, je ne sais pas.
Et vu que c'est coupé au téléphone, et que ça commence à buter les serviteurs dans tous les sens.
Il y a un des serviteurs qui est mort. Ça fera un copain avec le cadavre du piano. Ouais. Et le bruitage dans ce film,
c'est fait
à la bouche, hein, on est d'accord.
Ah oui. Non, ouais.
Vraiment, genre, les guns silencieux... C'est une blague, ça fait...
En fait, c'est comme quand on retire son doigt d'une bouteille.
Exactement. Ouais. C'est exactement ça.
Donc c'est vraiment artisanal, j'adore ça.
C'est moi, en fait, qui ai fait le bruitage.
Le cousin Ludovic, du coup, s'apprête aussi à faire sa cour dans le jardin.
Oui.
Mais il y a une autre stratégie.
Oui.
Ce qu'on va entendre tout de suite. En fait, il avoue sa vraie identité.
Est-ce que t'as noté
alors, dis-moi avant
la chanson qu'on entendait?
Non.
Quand il arrive dans le jardin.
Non, non.
C'est une espèce de version de la Marseillaise au violon.
Ah oui, si.
En fait, le thème récurrent du film, c'est la Marseillaise.
Tout à fait, oui.
Voilà.
Bah attendez, on vous laisse écouter ça et on revient juste après.
On revient tout de suite.
Vous rêvassez, cousin?
Amarante, faut que je vous parle.
J'espère que vous serez plus amusant que les autres.
Oh, bah, j'ai pas du tout l'intention d'être amusant. La vérité n'est jamais amusante à dire. Sans ça, tout le monde la dirait.
Et vous avez l'intention de me la dire?
Oui. Voilà. Je ne m'appelle pas Ludovic et je ne suis pas votre cousin. Ça n'a pas l'air de vous étonner.
Vous savez, quand un monsieur inconnu ramène chez vous votre mari mort, dynamite la salle de bain et jette les visiteurs par la fenêtre, on prend l'habitude de ne plus s'étonner de grand-chose.
Évidemment. Mais croyez-moi, Amarante, je suis victime des apparences. Là.
Bon, admettons que vous n'êtes pas mon cousin. Je ne pense pas non plus que vous soyez à proprement parler un gangster.
Amarante.
Alors vous êtes quoi?
Barbouze.
Pardon?
Agent secret. Enfin, secret. Jusqu'à maintenant.
Vous voulez dire un espion?
Un contre-espion.
Et les autres aussi?
Ah non. Non, non. Les autres, eux, les trois voyous, sont des espions. Je vous laisse emparer des brevets que votre mari vous avait légués.
Et qu'est-ce que c'est que ces brevets?
Je vous expliquerai.
Ils valent combien? Cher?
Vous savez, tout est relatif.
Vous avez tous l'air intéressés. Vassiliev me le dit en musique, Muller avec des fleurs.
Oui, oh, je sais, je vais mourir comme Werther.
Vous avez entendu?
Eh non, pas tout. J'avais branché un micro dans une armure et il y a un des trois voyous qui me l'a débranché. Voilà. Alors, vous êtes française. Vous aimez votre pays.
Ben oui, comme ça.
J'en étais sûr. Mais vous détenez des secrets atomiques capitaux.
Oui.
Enfin, mais ne me dites pas que vous accepteriez de les vendre à une puissance étrangère.
Pourquoi? Le dollar n'est pas une monnaie forte?
Oh, je préfère ne pas comprendre.
Vous avez tort parce que moi je comprends très bien.
Mais comment, Amarante? Vous, une femme d'argent? Oh, vous me faites beaucoup de peine. Quand je pense que je vous ai ouvert mon cœur.
Mon cher Ludovic, il est plus facile d'ouvrir son cœur que sa tirelire.
Ouais, permettez-moi de vous dire que vous êtes vulgaire.
Ah non, écoutez, Ludovic, maintenant je vais vous dire. Bien sûr, je suis châtelaine, mais il n'y a pas toujours eu le château. Avant, il y a eu les hôtels et pas toujours les palaces. Et avant les chevaux de course, il y a eu les punaises. À 16 ans, je vendais des cigarettes, rue Fontaine. Et pas au tabac. À l'Ange Rouge, en Barésie. J'ai fait un peu de tout dans ma vie. Et de bonheur. J'ai même fait du théâtre. Enfin, si on peut appeler ça comme ça, on part pour jouer Phèdre et puis on se retrouve à faire la danse du ventre sur le Bosphore. Et encore, j'étais trop maigre. Vous voulez d'autres détails? Eh bien, figurez-vous que je ne veux plus que ça recommence. Au fait, comment vous appelez-vous?
Francis.
Francis quoi?
Francis Lagnon. Oui, je vous dis tout. Alors, remarquez, j'ai peut-être tort. 20 ans de service. La mystique du devoir. Plus de 50 missions. La guerre, la résistance. Et un jour, l'officier rencontre une très jeune femme, belle, troublante. Ah, marrante. Je suis en train de trahir.
Écoutez, Francis, si vous arrêtiez une seconde, je ne demande pas beaucoup, une seconde d'être héroïque. Nos rapports pourraient être tellement plus simples. Nous pourrions sympathiser sans nous enrouler tricolore, sans remettre en cause les accords de Yalta et sans que la France perde Saint-Pierre et Miquelon.
Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as un commentaire à faire sur passage?
Bah du coup, il raconte tout. Et
lui dit la vérité.
Et vu
il
la
se
dernière...
met à nu.
Et vu la dernière réplique de Mireille d'Arc, on voit qu'elle est quand même assez intéressée.
Oui.
Que voilà, si il gâchait, il était un peu moins sur ses grands chevaux, voilà. Ça irait quand même très très bien.
Voilà.
Et en même temps, de ces déclarations, il y a des trucs qui se préparent au château.
Oui, on voit des personnes d'origine asiatique un peu partout dans le château. Donc j'ai regardé, c'est des Chinois, donc on n'est pas raciste en disant Chinois. Alors, hein, voilà.
Moi j'ai été, on sait pas, c'est pas clair.
Oui. Enfin,
on verra plus tard, mais c'est pas clair.
Pour l'instant, dans l'histoire, c'est pas clair. J'ai regardé sur Wikipédia, c'est des Chinois.
D'accord.
Donc, on peut dire Chinois sans être raciste. Hein.
Très bien.
Bref, il y a plein de Chinois dans le château et on sait pas trop ce qu'ils fabriquent. Ensuite, on a un plan sur le staff du château qui est en train de prendre son repas. C'est très Downton Abbey. Genre,
ils sont tous
à table, en train de manger ensemble. Voilà. Et dans le plan d'après, on se rend compte que ce sont les Chinois qui ont pris la place du staff du château.
Oui. Mais personne ne s'en rend compte. Hein.
Personne ne s'en rend compte.
Ça, putain, les espions de merde.
Espions de merde, hein, vraiment. Il y a des pieds qui pendouillent du plafond. On ne sait pas ce qui se passe. Oui, Rudolf entend un bruit dans le couloir. Il semble inquiet.
Ouais. Mais c'est l'heure du dîner.
Eh oui.
Donc, dîner en grande pompe, tout le monde est en costard. Lino Ventura, enfin, cousin Ludovic...
Pardon. Oui, Francis Lagneau, Ludovic et Lino Ventura, c'est la même personne.
caresse la main de Mireille d'Arc au dîner. Les autres font la tronche parce qu'ils comprennent qu'ils sont fait niquer.
Ouais. Le français est une longueur d'avance puisqu'il est de la même nationalité que la chère Amarante.
Ouais, évidemment.
Ah oui, on n'a pas précisé, Amarante, c'est le prénom de Mireille d'Arc.
Ah, putain, on n'a rien précisé. Oui, en même temps, Amarante...
Amarante, c'est pas un prénom. Ouais,
c'est pas vraiment un prénom. Alors, c'est pas sur le calendrier, donc c'est pas...
c'est pas un saint.
Voilà. Donc, apparemment, sur le point de conclure, mais ça se tire la main. Je crois que Lino Ventura sort de la pièce pour faire je sais pas quoi.
Oui, parce que Machine... donc, il y a une amie de Amarante...
Oui, sa femme
de
chambre.
...qui est au château. Quoi. Mais non, c'est pas sa femme
de chambre. Ça sert un peu de sa femme de chambre.
C'est son amie.
Oui, mais bon...
Bref, boniche, quoi. Elle a oublié ses cigarettes dans la bibliothèque. Donc, Lino Ventura en...
Chevalier servant.
En chevalier servant qui veut se taper la zouze pour récupérer les brevets, va les chercher.
Ouais. Mais tombe sur deux Chinois qui ont l'air un peu vénère.
Oh, légèrement.
Et en fait, s'ensuit un cours de karaté en bas d'un escalier, mais vraiment. En fait, Guino se fait beau gosse. Mais bon, mais vraiment, sagement. Mais en fait, ouais. Il gagne à la fin. Parce
bah
que,
oui, parce que c'est quand même Lino Ventura, c'est le héros du film.
C'est un vrai bonhomme. Et putain, c'est long.
Ah ouais, c'est elle est longue cette scène.
Ouais. Oh. Ils se prennent des mandats, et c'est super long.
Et après, il y en a 20 autres c'est qui ça. Arrivent.
Ils se retournent en disant ah putain, quand même.
Ah, je sais gagner, j'ai gagné.
Et en fait, ils se rendent compte que t'en as 50 là, dans l'escalier en train de l'attendre. Et que tout est rempli de chinois. Et maintenant, du coup, ça se court après.
Voilà, il court dans la salle à manger pour essayer d'avoir d'autres gens à l'aider.
Ouais. Ça perturbe pas Mireille ?
Non.
Qui continue de bouffer.
Ah, mais Mireille, elle en a rien à foutre. Ouais, c'est vraiment, genre, dans tout le film, rien à faire.
Donc, vas-y, que ça se poursuit dans Took Shadow. Donc, en fait,
est-ce que t'as noté la phrase de Amarante avant qu'elle aille.
Non, dis-moi.
Bon. Eh bien, puisque personne ne prend de dessert, moi, je monte.
Ah oui, c'est vrai. Oui, alors que tout le monde est en train de se courir après.
Voilà.
Et que ça tire en tous les sens. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, les autres espions aussi tirent sur les Chinois.
Oui. Ils se sont dit, en fait, on va mettre les Blancs contre les Asiatiques.
Voilà. Mais alors, c'est, putain, c'est déjà, ça dure vraiment très très longtemps. Et en plus, en fait, il en sort des dizaines et des dizaines à chaque fois, parce que en général c'est les espions sont derrière une porte, un barrique, je sais pas quoi, tirent au pistolet sans s'arrêter, donc vraiment ils ont des chargeurs énormes, tirent sans s'arrêter, et t'as des Chinois qui arrivent des vagues qui arrivent sans cesse, et genre vraiment en fait après il y a un tapis de corps par terre,
oui,
et vraiment toute la baraque ça se poursuit, ça fait des machins, mais en même temps donc on a Mireille Dar qui est dans sa chambre.
Oui.
Mais on a aussi un Américain qui est planqué dans son armoire.
Oui. Depuis le début. Il y a un truc avec les armoires et les gens planqués dans les armoires.
Ouais,
il y a un problème.
Et cette fois, il lui offre 2 millions de dollars.
2 millions de dollars.
Et après, je me suis demandé, est-ce que c'est beaucoup pour l'époque ou pas ?
Bah, je pense que ça doit être assez énorme quand même.
Parce que maintenant, 2 millions de dollars pour des brevets nucléaires, c'est de la merde.
Oui. Mais moi, 2 millions de dollars sur mon compte, oui, je les veux bien. Hein.
Non, mais de base, elle est quand même super riche et tout, déjà de base. Donc.
Elle est châtelaine, n'est-ce pas ?
Oui. C'est vrai, je suis très bien. Oh. Et voilà, donc après la bataille, les espions s'attablent ou se mettent se prennent un petit verre. Et donc se demandent s'ils sont japonais ou chinois, c'est pas clair pour eux déjà.
Oui, c'est un peu. Y a un petit débat pour savoir si c'est des japonais, des chinois, etc. Et y a Amarante qui crie.
Ah oui, oui, mon dieu.
Oh mon dieu. Parce qu'elle est chill le reste du temps. Hein.
Oui, mais là,
vraiment,
ça crie.
Genre, elle est. Rien à foutre des gens qui se font taper dessus, ouais. Des murs qui cassent, des portes qui ne sont plus des portes, hein, puisque...
Mais il n'y a plus de portes.
Il n'y a plus de portes. Okay. Mais là, elle crie.
Elle crie, Guino arrive, oui. En courant. Je crois qu'il y restait un Chinois dans sa chambre, une connerie comme ça.
Je sais pas oui, quoi. Je pense.
Ouais. Il le défonce, il fait passer par la fenêtre, je sais plus quoi.
Ah non, c'est pas l'Américain qui est encore là ?
Je sais plus. Bon,
il y a un méchant.
Il y a un méchant, il arrive, il le défend, voilà. Et vas-y que ça dragouille maintenant.
Ah bah évidemment.
Parce que bon, ils sont touchés la main, donc je pense que. Et puis donc ça dragouille comme Jaja.
Doigt. Est-ce que t'as noté un truc ? Parce qu'on a un plan sur les autres espions à ce moment-là.
Non.
Et genre ils sont tous en train d'écouter Francis
ah
et
oui,
Amarante.
Ah oui.
Et il y a des poules.
Il y a des poules.
Oui.
Ah bon.
Genre tout le matériel du russe là pour écouter, il est sur une des cages avec des poules.
Ah peut-être.
Oui. Non, j'ai pas compris. Quoi.
Vraiment ils ont du merdier improbable. Et du coup on a Guino Ventura qui se pose en victime en disant avec toutes ces histoires vous allez me prendre pour un violent en disant bah il arrête pas de défoncer des gars depuis avant-hier quoi donc c'est. Mais c'est drôle parce que du coup les autres écoutent et alors maintenant d'ailleurs j'ai noté
t'as
ça
se tutoie. T'as pas précisé.
Oui.
Que Amarante elle était à poil.
Amarante est à poil. Tout à fait. Voilà. Oui, c'est le petit détail.
C'est qu'elle est. Ça, c'est elle se couvre de son drap.
Ça, c'est pas important. L'important, c'est que maintenant, ça se tutoie, tu vois.
Oui, on est passé de vouvoiement à tutoiement.
Maintenant, ça se tutoie. On sent qu'il y a quand même un rapprochement. Et du coup, Guino dit qu'il n'est pas marié, ce qui est faux parce que.
Oui. Elle lui demande s'il est marié.
Ouais,
il dit non. Quoi ? Mais bien sûr que non.
Voilà. Et c'est faux parce qu'on l'a vu au tout début quand il partait en Bretagne.
Quand il devait partir à Plougastel, c'était avec sa femme.
C'était avec sa femme. Et même d'ailleurs, en fait, à ce moment-là, sa femme lui retire son alliance, elle la met à son doigt.
Ouais.
Et là, sans plus de cérémonie, ça se roule des grosses péloches.
Ah, mais des grosses patins, des gros patins, bravo. Ouais. Bravo la France. Ouais.
Bah, moi j'ai noté, ça se roule des grosses pelles en majuscule, ensuite, ça nique bien comme il faut pour la France du général. Ouais.
Pas la la France du général. Ouais,
pour la France. Par devoir. Par devoir.
Par devoir pour la France.
Voilà. Et ensuite, bah, matin arrive.
Ah bah oui, parce qu'après tant de folie de leur corps, faut bien qu'ils dorment un petit peu. Et donc, le lendemain matin, on arrive. Et Francis débarque dans la salle à manger en robe de chambre, tel un DSK des années 60. Voilà. Et il dit aux autres subtilement que la maîtresse de maison souhaite qu'il dégarpisse.
Ouais. Et moi, j'aime bien ce que Russ dit. Du coup, Gino Ventura se rebarre.
Oui.
Et que Russ lui dit, on le tue ou on prend un café d'abord. Et ça, j'ai vraiment adoré cette réplique.
Et le ouais. Russe a subitement une attaque.
C'est ça.
Oh là là, il y a de la mousse qui sort de sa bouche, vraiment, genre, c'est compliqué. Mm. Et donc, le docteur Müller décide qu'il est intransportable et que donc, forcément, bah, ils peuvent pas s'en aller puisqu'il est intransportable. Donc, le médecin est obligé de rester puisque, forcément, il a une attaque. Donc, il y a un médecin sur place, donc autant le garder. Et l'abbé reste aussi parce que s'il meurt.
Extra-motion, tout ça, évidemment.
Voilà. Donc, ils sont obligés de rester dans le coin. Et en fait, c'était que du faux.
Et oui, c'était une.
Je suis choquée.
Une machination.
Oui. Mais... Et donc là, j'ai pas trop suivi. Oui. Il y a l'Italien qui prend une voiture. La voiture, elle explose.
Ah oui, et... non, mais attends, ce que t'as pas dit, c'est que du coup, Francis ne se fait pas prendre. Enfin,
ah
c'est que c'est, voilà,
sait
que c'est un piège.
Du faux.
Du coup, ils vont pour s'enfuir, ils prennent une voiture et vont pour s'enfuir et se font poursuivre par les autres espions.
Oui, voilà.
Et là, c'est là qu'il y a une voiture qui pète.
Et donc, l'Italien prend la voiture, elle explose. Il sort de la voiture, il est enfumé, donc on se dit, bon, bah, il va pas faire long feu, celui-là. Mm. Le Russe se dit qu'il y a des imitateurs et que c'est pas de sa faute à lui, donc lui et l'Allemand se battent.
Oui.
L'Allemand prend une moto, et finit dans un lac, il a le guidon dans les mains.
Oui, ça aussi, ça a beaucoup moins bien marché, maintenant.
Il crie au sabotage, mais du coup, qui est-ce qui pourrait être derrière tout ça? Je ne sais pas. Et donc, plan sur Francis et Amarante, qui sont dans une petite voiture...
Ouais.
On entend la Marseillaise, ah bah ils partent en vacances.
À Lisbonne.
Eh ben oui.
Ouais. Et oui, parce qu'en fait, c'est à Lisbonne que sont... Dans une banque à Lisbonne, où il y a tous les papiers.
Est-ce que t'as remarqué le livre qu'elle lisait
Je crois que sur le moment, ça me dit un truc, ça, mais j'ai pas noté. C'est quoi?
Comment devenir un agent secret.
Ah oui, c'est ça. Et donc, voilà, donc ils sont à Lisbonne dans un hôtel en attendant de passer à la banque.
C'est très long.
C'est très très long, cette scène.
Cette scène de l'hôtel est très très long.
Ah
oui, et pourquoi ils sont à Lisbonne, d'ailleurs, Théo?
Bah pour ramasser des papiers.
Mais tu l'as pas dit.
Bah, j'ai dit 4 fois.
Non.
Si, j'ai dit ils sont là pour ramasser. Ils sont à la banque, les papiers. Enfin.
Non, mais t'as pas dit qu'il faut qu'ils aillent à Lisbonne, puis après qu'ils retournent à Paris.
Oui, mais... Ouais, oui, alors... Donc, ils sont à Lisbonne pour récupérer les papiers, donc les brevets des armes, pour ensuite retourner à Paris, les donner au général.
Au fameux général.
Au fameux général. Non, pas celui-là.
Ah, pardon.
Pas avec cette personne. Quelqu'un frappe à la porte de leur chambre. Et qu'est-ce qu'on voit? L'Américain.
Oh là là.
L'Américain qui est là, qui est bien vénère cette fois, et qui met une beigne à Francis.
Oui.
Et aussi, il va le faire passer par la fenêtre pour se venger de coups des louves.
Oui. Oui.
En fait, on se rend compte qu'en fait, il tombe sur l'abbé dans le couloir, enfin, le Suisse dans le couloir. Oui. Ensuite, tout le monde se met sur la gueule. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont tous réussi à suivre... le couple, parce que Mireille a fait venir ses affaires du château.
Oui, parce qu'elle est un peu con.
Ouais.
Et du coup, elle a fait venir une grosse malle remplie de vêtements, parce que clairement, elle pouvait pas préparer ça avant et voyager léger.
C'est ça.
Donc, elle a fait venir une grosse malle, et du coup, bah, tout le monde a suivi. Hein, puisque...
Ça dure des plombes, tout le monde se bastonne en costume, en plus, ça va être vraiment horrible.
Et ils sont censés aller chez le ministre des Affaires étrangères, je crois, je ne sais plus. Et Mireille est un peu chiante, elle est là, je vais pas aller chez le ministre avec les cheveux gras, vous avez vu sa femme, elle est dans le Vanity Fair.
Oui, du coup, elle prend le
temps... Non, dans Paris Match, pardon.
Dans Paris Match, bah oui, Paris Match, évidemment.
Excusez-moi,
du
je me suis trompée de pays.
Elle prend un petit bain. Enfin bon, ça continue à se bastonner.
Du coup, elle sort de la pièce, et dans la pièce principale, tout le monde se bagarre, là.
En fin de compte, la chambre d'hôtel est ruinée. Ils récupèrent un papier, ils prennent directement le train pour Paris.
Et donc, ils vont prendre le petit train pour retourner à Paris pour donner les papiers au général. Et donc, on se retrouve dans un train direction Paris. Train qui rappelle la première scène du film, n'est-ce pas?
Et ça cause voyage de noces.
Ah oui.
Ah oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que vu que maintenant c'est grand amour, ils songent à se marier.
Ah bah oui, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire des enfants sans être marié, n'est-ce pas?
Oui. Oui. Oui.
Et donc ils sont dans le train, ils ont un petit train avec des...
Des compartiments.
Des compartiments, ouais. Tes trains préférés, là,
Théo.
Des
pires trains du monde, hors de ça.
Et donc on frappe à la porte du train.
Oui. On leur demande quoi, à quelle heure il va être réveillé.
Oui, à quelle heure il va être réveillé. En fait, c'est juste un mec qui travaille dans le
train. Ouais,
c'est
ça, ça va.
Et c'est un rappel de la chaîne d'introduction.
C'est ça, oui.
Et avec en fait... le mec qui lit le journal dans le couloir, etc.
Oui. Et
t'as vu ce qu'elle elle était en train de lire?
Non plus.
Parce qu'elle a sûrement fini comment devenir un super-héros.
Maintenant, c'est quoi?
C'est le journal de Mickey.
Ah oui, putain, oui, je me suis fait la remarque avec le journal de Mickey. Et en fait, elle voit plein de barbus.
Oui. Donc il y a un barbu.
Plein de barbus. Et la maman a dit...
Deux barbus.
Du coup, en fait, j'ai pas compris ce que la maman a dit 15.
Mais oui, elle dit des chiffres.
Elle dit 15, 30,
random.
40. Ouais. Je sais pas, elle a compté 7 et tout. Et
t'as Francis qui lui dit un barbu, c'est un barbu. Trois barbus, c'est des barbouzes.
Voilà. Donc en fait, ils se rendent compte que ils ont encore été suivis par les espions.
Et oui.
D'ailleurs, c'est très drôle. C'est très drôle parce que en fait, ils arrêtent pas de se mettre sur la tronche, mais personne ne meurt.
Mais oui. Ils sont tous balancés par la porte du train, mais genre personne meurt.
Oui, oui, oui. Non, mais enfin, je veux dire, tout au cours du film, ils se prennent des patates.
Oui.
Improbables, mais eux ne meurent pas, tu vois.
Non.
Alors que les Asiatiques, par exemple, sont tous dead. Et donc, comme tu disais avec la première scène du film, c'est-à-dire que tout le monde essaie de se buter dans le train encore.
Ouais.
Mais tout le monde se fait jeter du train.
Ouais.
Ouais.
Ils finissent tous par la porte du train et récupérés par la petite voiture.
De l'américain, oui. Avec les sergents américains, les seconds, je sais pas comment on dit.
Mireille, amarante, a un petit papier dans la main.
De la main. Oui, oui, parce qu'en fait, si l'américain est là.
Ce qu'il propose.
Oui, l'américain.
4 millions.
Et encore repassé, propose 4 millions.
À chaque fois, il propose le double, en fait.
C'est ça, oui, oui. Et en fait, il a récupéré. En fait, il a vogué les papiers. Aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, il a réussi à voguer les papiers. Il se fait poursuivre, on récupère les papiers, on balance par le train, vers l'extérieur, machin. Lino Ventura retourne dans son wagon.
Oui.
Et donc, c'est là que Mireille Darc a son petit papier.
Et oui. Et du coup, elle comprend que lui, il lui a menti, et qu'en fait, il est marié, et que
carrément
c'était
marié.
Que du vent.
Parce que c'est la en fait, le papier, c'est une photo de mariage.
Oui, voilà. Et il dit là, mais non, c'est un photomontage.
Non, vraiment, c'est pas bien.
Dude, on est en 1964, Photoshop, ça existe pas encore.
Oui, mais si tu peux faire des photomontages.
Oui, mais moins bien que sur Photoshop.
Ouais, j'avoue, c'était propre.
S'il faut faire du découpage, pardon, mais...
En fait, ça gêne pas Mireille Darc plus que ça.
Ah non.
D'ailleurs, c'est ce qui est drôle. Et du coup, carton de fin, qui dit, donc j'ai noté, « Et par discipline, il devint bigame, et il en eut d'autant plus d'enfants. » Ce qui a fait beaucoup rire. Ouais.
Oui, oui, j'ai noté ça aussi.
Et je crois que le film, après, se finit avec la Marseillaise qui doit passer dans le fond.
Évidemment, ouais. Puisque c'est un peu le thème principal de ce film.
Bah, donc on en est là, c'est terminé.
Et c'est fini.
Qu'as-tu pensé de ce film?
C'était rigolo. Faudrait que je le revoie parce que forcément quand on regarde pour faire les commentaires, on m'épose, personnellement je m'épose assez régulièrement pour prendre mes notes, donc c'est pas très fluide comme visionnage, mais c'était sympathique.
Bah moi j'ai bien aimé.
Parce que tu l'avais vu une fois avant,
je
mais
crois
pas...
Je crois que j'avais vu une ou deux fois max.
Ouais.
Mais du coup j'ai bien aimé, ça m'a rappelé un peu au S77 du coup.
Évidemment.
Mais dans son propre style.
Ouais.
À savoir que ils sont moins bouffons quand même.
Oui.
Que Jean Dujardin dans S77, mais c'est toujours sympa. Il
faut savoir que Théo et moi parlons beaucoup en réplique de S77 entre nous. On aime vraiment beaucoup S77, donc voilà. Je pense que c'est pour ça que t'as choisi de faire ce film avec moi.
Ouais. Veux-tu mettre une note à ce film?
Eh bien oui, je vais lui mettre la note de Hubert Bonisseur de la Basse sur 20. Voilà, on parlait de OSS 77, donc forcément...
Moi, ça sera grosse patate sur 20.
Oui, c'est une bonne note aussi, ça résume assez bien le film.
Voilà.
Voilà, et bien, on a terminé un autre épisode du Retour de Jedi.
Je vous encourage à voir ce film, parce que c'est un vieux truc, mais qui est toujours super marrant.
Il n'est pas très connu, parce que moi, je ne le connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler, et franchement, je pense qu'il vaut le coup.
Ouais.
Après, vous n'ayez pas peur de la première scène du film,
oui, qui est assez bizarre,
qui est assez étrange. Continuez, et c'est assez rigolo, et vraiment, genre, regardez au moins pour Mireille Darc, parce qu'elle est magnifique.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Et elle est assez rigolote dans son rôle. Et voilà, on espère que ça vous a plu.
Ouais.
Et on vous dit au mois prochain.
Salut.
Des bisous.
fly yourself, sir. I'm shooting webs like worldwide. Manhattan all the way to Yonkers. When they say Brooklyn, stand up. You better just fix your posture. And every hero needs this theme song. So hood hit trash. You ain't got a chance, boy. What you think? I'm doing everything but the kitchen sink. I try to be feeling in a neighborhood. I know all the little grannies wanna sip their tea. And here you come all barging in. All ugly like a brown fur cardigan. We can skip that monologue and arguing. I'm like,
hood hit trying to start a game. Let's rock and roll. So high up, I can see the flow. There he go. It's a play, it's a UFO. Friend of foe, let me know. If you brought that action, it don't matter. Just let me know. No, my way. I'm coming through for my crew to make a play. I don't need no super suit, I'm feeling great. Hero, turn around and walk away. Wait, wait, wait. Hood here trying to start a game. Yeah. Hood here trying to start a game.
Like a sticky situation when evil's looking for a chance.
For a chance.
And I know we are the newest generation.
Newest.
We got newest. The power in our hands.
We're singing through the trenches.
I'm coming through for my crew to make a play. I don't need no super suit, I'm feeling great.
When I say Brooklyn, stand up. You better just fix your posture. And every hero needs this theme song. So
who in here trying to start a game? Trying to start a fight.
Get
who in here trying to start it?
Bang.
Who in here trying to start it? Who in here trying to start it?
Alors, n'importe qui vous demande l'heure du feu. Le chemin de la mer.
En flingue.
Voilà.